Le 1er septembre 1864, Claude Bernard comparait les cellules de notre corps à des infusoires. Cette comparaison exprime exactement ma pensée, dit-il, car cette multitude inouïe d'organismes élémentaires associés qui composent notre organisme total existe comme des infusoires dans un milieu liquide qui doit être doué de chaleur et contenir de l'eau, de l'air et des matières nutritives. C'est dans ce liquide qui ne les imbibe pas, mais qui les baigne, que s'accomplissent tous les échanges matériels, solides, liquides ou gazeux, que leur vie exige. Ils y prennent leurs aliments et y rejettent leurs excréments, absolument comme des animaux aquatiques. Tous ces éléments vivent sans exception dans un milieu liquide intérieur. C'est pourquoi j'ai donné le nom de milieu intérieur organique au sang et à tous les liquides qui en dérivent. Telles sont les définitions données il y a près d'un siècle par Claude Bernard, initiateur de la science des hormones. Aujourd'hui, nous pouvons non seulement affirmer l'existence du milieu intérieur, mais mesurer le volume des liquides qu'il constitue, l'efficacité des mouvements qu'il agite, explorer enfin les mécanismes qui assurent la constance de sa composition. Étudions tour à tour ces trois aspects du milieu intérieur. Ce milieu comprend les liquides interstitiels qui baignent les cellules et le sang contenu dans le système circulatoire. Le volume de ces liquides a pu être mesuré à l'aide de procédés divers. Le plus moderne est l'utilisation du sodium radioactif. Le sodium ne pénètre pas à l'intérieur des cellules. Injecté dans le sang, il diffuse dans la masse sanguine, puis passe à travers les capillaires sanguins dans les liquides interstitiels. Voici les résultats des mesures pratiquées avec cette méthode. Un homme de 100 kg contiendrait 7 litres de sang et 20 litres de liquide extracellulaire. Ce milieu intérieur est en mouvement incessant. La pompe cardiaque entretient un brassage perpétuel. Le sang circule dans les grosses artères à la vitesse de 18 mètres par minute. Le débit circulatoire en une journée est de 6000 litres. Il passe à travers le rein 1900 litres de sang par jour. Ce mouvement entretenu assure la rapidité des échanges. Injecter du sodium radioactif dans le sang d'un lapin. En 5 minutes, le sodium a diffusé dans la totalité de l'organisme. Le sang est d'une constance de composition étonnante. Les limites extrêmement étroites entre lesquelles il est permis de le faire varier marquent les limites même des conditions de vie des cellules. Des systèmes de régulation très complexes assurent la constance de cette composition. Les physiologistes n'ont pas fini d'en explorer les mécanismes, mais on sait déjà quelle part importante y prennent les hormones. Le sang ne contient jamais plus d'un gramme de sucre par litre. Pour assurer ce taux constant, malgré la variété des apports de l'alimentation, plusieurs hormones interviennent. L'insuline, sécrétée par le pancréas, diminue le taux du sucre sanguin lorsqu'il est trop élevé. Le sucre sanguin est alors pris en charge par le foie et les muscles. L'adrénaline, au contraire, hormone sécrétée par une petite glande située au-dessus du rein, la médulo-surrénale, augmente le taux du sucre sanguin lorsqu'il est trop bas, en mobilisant le sucre mis en réserve. L'hypophyse intervient à son tour, et la thyroïde et la cortico-surrénale. Lorsque le pancréas malade ne sécrète plus d'insuline, le taux du sucre augmente dans le sang. Le rein, pour essayer de lutter contre cette rupture de l'équilibre intérieur, élimine une partie du sucre en excès par les urines, c'est le diabète. Les exemples de la régulation hormonale pour maintenir constant le milieu intérieur peuvent être multipliés. Notre sang est salé. Il contient environ 7 grammes par litre de chlorure de sodium. Ce taux est contrôlé par une hormone de la corticosurrénale. Enlevez à un cobaye ses glandes surrénales et vous assisterez à la fuite du sodium de l'organisme par les urines. Cette fuite entraîne le départ de l'eau, le cobaye maigrit, se déshydrate et meurt. Le sang contient 100 mg de calcium par litre. Enlevez chirurgicalement à un animal les parathyroïdes, petites glandes situées dans le cou, devant la trachée. Le calcium sanguin passe de 100 à 40 mg par litre. Le calcium intervient pour régler l'excitabilité des muscles. L'animal, privé de parathyroïdes, est pris d'accès de convulsions tétaniques. La quantité d'eau de notre corps est constante. Cette constance est assurée par de nombreuses hormones, parmi lesquelles l'hormone antidiurétique de la post-hypophyse. Détruisez la glande post-hypophysaire située près du cerveau et vous verrez l'eau s'enfuir par le rein. Une telle lésion se rencontre en clinique, c'est le diabète insipide. Les malades éliminent jusqu'à 20 litres d'urine par jour. Ils ont toujours soif et supplée à la perte de liquide en buvant d'énormes quantités d'eau. Des facteurs multiples interviennent dans ces régulations complexes, système nerveux, vitamines, etc. Mais les hormones participent largement au maintien de cet équilibre intérieur. Le taux même d'hormones en circulation dans le sang est réglé à son tour par un mécanisme hormonal. Prenons l'exemple de la thyroïde. Trop d'hormones thyroïdiennes sécrétées, et c'est une maladie bien connue, le goitre exophtalmique. Pas assez d'hormones, et c'est le myxédème, le crétinisme. Comment la thyroïde règle-t-elle le débit de sa sécrétion? Cette glande est sous la dépendance d'une autre glande endocrine, l'hypophyse, qu'on a appelée le chef d'orchestre des glandes endocrines. L'hypophyse est sensible au taux de thyroxine circulant dans le sang. Lorsque ce taux est trop bas, elle déverse dans la circulation une hormone stimulante de la thyroïde, la thyréostimuline. Nous entrons là dans le chapitre passionnant des corrélations organiques. Faisons le point. Nous venons, au cours de ces premières causeries, de situer le problème des hormones. Description de la cellule d'une part, du milieu intérieur d'autre part. Chemin faisant, nous avons vu se dessiner quelques caractères et quelques fonctions des hormones. Il nous reste à en donner le signalement chimique. Nous aborderons cette étude dans notre prochain entretien.